Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. À l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris, nous consacrons plusieurs émissions à l'agriculture, un salon qui accueille de nombreux professionnels, y compris de l'étranger. Et aujourd'hui, nous nous interrogeons, être jeune à la campagne en Afrique, offre-t-il aujourd'hui un avenir? La plupart en doutent, malgré la forte demande de jeunes plus qualifiés pour moderniser la production agricole du continent. Alors peut-on choisir de rester ou de retourner au village quand on a 20 ou 25 ans? Loin des services offerts par la ville, éducation, santé, connexion internet, électricité. Comment aider les jeunes à accéder à la terre aussi, alors que 95% des terres appartiennent au domaine national sur le continent? Et puis pour quels revenus agricoles surtout, quand on sait que la majorité des ruraux vivent avec moins d'un euro par jour? Se lancer dans l'agriculture ou vendre des unités de téléphone au bord de la route en ville? Eh bien, nous allons en discuter avec nos invités, dont certains sont de passage à Paris. On est ravis de les accueillir à la faveur du Salon de l'agriculture. Bonjour Babacar Diop.
Bonjour.
Vous êtes ancien maire de la commune de Rosbétio, ça se situe dans le nord du Sénégal, à 50 km de Saint-Louis, dans le delta du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, vous accompagnez des jeunes qui se lancent principalement dans l'élevage, hein, c'est bien ça?
Dans l'agriculture d'une manière générale.
Oui, et puis pas mal dans l'élevage. Vous estimez que l'action publique, vous en tant qu'ancien élu, vous estimez que l'action publique peut freiner l'exode rural vers la ville?
Je ne pense pas du tout à 100%, parce que c'est vrai qu'il faut avoir des actions publiques pour contribuer à freiner l'exode rural, mais il faut avoir aussi des initiatives rurales pour freiner ouais. L'exode rural.
Et de la volonté, bien sûr, du côté des jeunes. Vous nous direz comment. Nous sommes également ravis d'accueillir un pisciculteur malgache, Aïgou Randrianomen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pisciculteur, vous êtes aussi président de l'association FIS qui aide les paysans à sécuriser leurs droits fonciers à Madagascar. Votre île d'ailleurs est victime depuis plusieurs années d'accaparement de terres par des investisseurs étrangers. Et vous faites aussi partie de la direction d'un syndicat paysan qui s'appelle le FIFATA, c'est bien cela?
Non, je ne suis pas dans la direction, mais je suis administrateur au sein de FIFATA. C'est voilà. Une organisation des syndicats agricoles malgaches.
C'est ça. Bon, vous êtes donc administrateur, ce qui veut dire quand même que vous faites partie des décisionnaires tout de même.
Oui. Hein,
voilà. Mohamed Naoufel Benaha, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez de Tunisie, on est ravis aussi de vous accueillir. Vous êtes sous-directeur de l'aménagement et merci. Coordinateur du programme de développement rural au ministère tunisien de l'agriculture. Vous êtes un cadre de l'agriculture, mais vous êtes encore connecté à la terre, au terrain?
Bien sûr, oui. Nous sommes tous connectés à la Terre, hein. Nous sommes les 7 milliards sur Terre. Donc, je coordonne un programme de développement qui s'intéresse au développement des zones vulnérables en partie financées par l'AFD, avec la coordination et la collaboration des collègues du CIRAD et des autres instances qui sont des partenaires des institutions françaises.
Il y a beaucoup de bailleurs de fonds, hein, qui sont au chevet des jeunes et de l'agriculture, bien évidemment, sur le continent africain, on en parlera. Nous
on
sommes
en parlera,
également.
Justement, si vous permettez, c'est pas question d'argent, mais question de manière d'intervenir.
Ouais. L'argent ne peut pas tout, vous avez raison, on va en discuter. Anne Panel, vous êtes directrice de l'association Formation pour l'épanouissement et le renouveau de la terre, FERTE. Bonjour.
Bonjour.
C'est une association qui accompagne des jeunes essentiellement sur le continent africain pour l'agriculture.
Voilà, on accompagne le développement agricole et notamment les jeunes, en particulier à Madagascar et puis aussi en Côte d'Ivoire. Et je voulais souligner qu'on est soutenu par les agriculteurs français qui nous accompagnent financièrement et en termes de savoir-faire aussi, d'expérience, de partage d'expérience entre agriculteurs.
Jean-Luc François, vous êtes responsable de la division agriculture, développement rural et biodiversité au sein de l'Agence française de développement, donc vous faites partie des nombreux bailleurs de fonds au chevet de l'agriculture en Afrique.
C'est exact.
Et quant à vous, bien sûr, les voisins, appelez-nous, surtout si vous nous écoutez au village ou dans une petite ville ou si vous vous interrogez sur votre avenir, appelez-nous tout de suite, surtout n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Alors je vous lis des messages, évidemment vous avez le droit de réagir hein, les uns et les autres. Arnold à Abomey-Calavi au Bénin nous dit « Dans les campagnes en Afrique, à 19h, tout le monde est déjà au lit. Comment voulez-vous alors évoluer? Ceux de la ville travaillent beaucoup, dorment moins. On sait tous que plus on travaille, plus l'argent rentre. » Je vous vois sourire, messieurs.
C'est tellement vrai.
Babacar Diop.
C'est tellement vrai. Et puisqu'on travaille, plus l'argent rentre. Mais il faut avoir aussi la possibilité de travailler dans des zones à haute potentialité agro-sylvopastorale, comme chez nous, au nord du Sénégal.
C'est vrai, tout le monde est au lit à 19h à Igou, Andrianomen, dans les campagnes?
Non, chez moi, je dors pas plus de 4 heures la nuit à cause de l'insécurité des vols et des vols des ébus. Donc nous nous organisons en tant que comité de vigilance dans notre village et chaque fois, une fois par semaine.
Pour veiller sur votre exploitation en fait.
Pas seulement l'exploitation, mais c'est la totalité du village qu'on devrait veiller.
C'est ça, et celle des autres.
Mais quand même, il y a des moments où on peut aller...
Ça ne fait pas beaucoup de sommeil ça, oui, pour un paysan malgache.
Oui, oui, il y avait des moments où on peut aller au lit à 18h.
Jean Alomé au Togo nous dit « Je souhaite retourner à la campagne après mes études universitaires pour cultiver la terre. C'est pourquoi j'ai décidé d'étudier l'agronomie en attendant. » Kizito, lui, est aussi à Lomé. Contrairement à ce que tout le monde peut penser aujourd'hui, nous dit Kizito, la campagne offre plus de développement à la jeunesse que les milieux urbains. Étant en stage dans une zone éloignée de ma ville, à 75 km de Lomé, j'ai eu la chance de découvrir l'opportunité que le milieu offre à la jeunesse, l'agriculture, grâce à la fertilité des sols. Malheureusement, les jeunes de ces milieux sont confrontés à des problèmes financiers. Parfois, ils pensent même que leurs ambitions ne seront mises en valeur qu'en ville, qui est aujourd'hui, la ville, une caverne de précarité et de paupérisation. Jackie, à Madagascar, chez vous, Aïgou, on est très marqué par l'exode rural ici, nous dit Jackie. Les terres ne sont plus comme avant, moins fertiles, l'insécurité est très présente, vous nous le disiez. Il n'y a pas de gendarmerie à la campagne, on se fait voler, donc allusion au fameux vol de zébu, qui génère des conflits parfois violents. Les campagnards vendent leurs produits agricoles à perte. Pierre, à Port-au-Prince, en Haïti, les personnes vivant à la campagne sont abandonnées. On les nomme Mounandeyo, personnes exclues. Pourtant, au moment des élections, les candidats veulent absolument leur vote. Ils leur offrent de l'alcool en échange d'un vote en leur faveur. Appelez-nous maintenant, on a envie de discuter avec vous. De vive voix, 33 1 84 22 71 71. Être jeune aujourd'hui à la campagne, a-t-on encore un avenir ?
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Jean-Luc François de l'Agence française de développement, les deux tiers des actifs qui vont arriver dans les années à venir, dans les 10 ans à venir sur le marché du travail, seront dans les zones rurales. Ça fait 200 millions de jeunes à terme. Est-ce qu'on court à la catastrophe ou pas ?
Non, certainement pas. Mais enfin, il faut bien se mettre dans cette perspective. Nous sommes 7 milliards, nous serons 10 milliards. Et dans un pays comme le Sénégal, comment offrir 200 000 emplois chaque année dans une économie sénégalaise qui n'est pas véritablement industrialisée, où la seule perspective n'est pas que les services, et où il y a de vraies opportunités de développement dans l'agriculture, dès lors qu'un certain nombre de décisions politiques, et notamment sur les prises agricoles, sont prises, de manière à ce que l'effort assez considérable que doivent faire des jeunes pour travailler et investir dans les campagnes soit bien récompensé. Et les questions de vos auditeurs montrent bien qu'il y a deux sujets. Il faut raisonner en termes d'opportunités économiques et aussi en termes de qualité de vie. Est-il agréable de vivre dans les zones rurales ? Est-ce qu'on peut avoir de l'électricité pour regarder la télé et ne pas se coucher à 18h ?
Oui, ne serait-ce que d'aller sur Facebook voilà. aussi et de recharger son portable.
Voilà.
Oui.
Et donc, c'est dans les interventions que l'Agence française de développement finance, on essaye d'intégrer à la fois saisir des opportunités chaque fois que le contexte économique le permet, et c'est le cas du riz dans le Sénégal aujourd'hui.
Alors justement, les opportunités déjà, quelles sont-elles ? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes qui disent « mais non, il n'y a pas de travail hein. ». Enfin, il y a du travail, mais il n'est pas rémunéré, plutôt.
Alors, il y a des opportunités qui tiennent tout simplement à la croissance de la population, à la croissance demande. Il est anormal qu'un certain nombre de pays du continent africain et d'autres pays en développement importent des produits qu'ils peuvent produire sur leur propre sol. Donc, c'est pour ça que je renvoie à une politique macroéconomique responsable de création d'emplois. Si on ne taxe pas certains produits à l'entrée, évidemment, il sera difficile d'être compétitif, d'autant que ces produits qui circulent sur les marchés internationaux sont parfois des sous-produits ou des coproduits qui ont une valeur très très faible. Donc, il y a des opportunités aussi parce que les classes moyennes urbaines ont un niveau de consommation qui évolue, qui progresse, qui commande plus de produits végétaux, légumes, fruits, et un peu plus de produits animaux dans des limites qu'il faudra garder raisonnables, bien entendu. Mais Et il y a aussi des demandes sur des marchés internationaux pour des produits agricoles tropicaux importants qu'on doit pouvoir satisfaire dans beaucoup de pays.
Est-ce que les bailleurs de fonds investissent assez dans le rural aujourd'hui ? Parce que les villes menacent elles aussi d'exploser, alors on ne sait plus où donner de la tête.
Je crois qu'il faut regarder. On a tendance à dire 50% de la population vit aujourd'hui dans les villes, ça augmentera en valeur relative. Par conséquent, on oublie les 50% qui vivent dans les campagnes aujourd'hui. Et on voit les problèmes géopolitiques internes et voire même géopolitiques régionaux que cela pose. Donc non, on n'investit pas assez dans la qualité de vie dans les territoires ruraux, dans les infrastructures, dans la connexion, dans l'accès aux services de base que sont la santé, l'éducation... l'électricité, je pense que là, on doit quand même faire avant
les infrastructures, les routes aussi pour que les marchandises circulent, voilà. Bien sûr. Babacar Diop, vous en tant qu'ancien élu de Rosbetio, vous êtes aussi président de la commission du développement du conseil départemental. Vous occupez de 3 départements ruraux pour aider les jeunes, Dagana, Louga, Saint-Louis. Dites-nous dans quel état d'esprit sont les jeunes aujourd'hui dans le nord du Sénégal.
Oui. Moi, je pense quand même qu'il faut cerner les questions. Au Sénégal, nous avons des zones à haute potentialité agro-sylvopastorale, dont la maîtrise de l'eau. Il y a de ces zones qui dépendent carrément de la pluviométrie. Alors, chez nous, c'est la maîtrise de l'eau.
C'est clair, hein, on n'est pas clair. En Casamance, là, chez vous.
Exactement. Mais chez nous aussi, c'est que y a moins d'émigrés dans nos zones. Parce que les jeunes représentent la main-d'œuvre locale et les bras valides. Alors, ces jeunes aussi ont besoin de programmes adaptés à leur réalité. Ces jeunes ont besoin aussi d'être indépendants. Et il faut nécessairement qu'il y ait une bonne volonté politique pour les accompagner.
Qu'est-ce que vous voulez dire par indépendant ? Ne pas dépendre d'une petite exploitation familiale, par exemple ?
Exactement. Nous sommes autour des exploitations familiales. Mais les exploitations familiales, c'est au niveau de la famille. Et la responsabilité des exploitations familiales, c'est autour des pères de famille.
Oui. Et donc les jeunes vous disent quoi ? Marre de travailler avec papa ?
Exactement. Je veux même travailler avec papa, mais je veux avoir une autonomie pour forger ma vie. Et il y a de ces activités...
C'est ça, la société a changé.
Exactement. Mais exactement, parce que tout le monde veut être autonome et créer ses propres affaires. Alors ces jeunes, même... ont l'habitude de faire l'école agronomique pour revenir travailler la terre. Alors, ces mêmes jeunes veulent accéder au foncier. Ces mêmes jeunes aussi veulent accéder au financement. Il y a de ces financements qui ne sont pas à la portée de ces jeunes. Les gros investissements sont normalement sous la responsabilité de nos États et des partenaires.
Donc, ils ne sont pas, en fait, opposés au fait de rester en zone rurale, mais ils veulent un monde différent, une vie différente que leurs parents. C'est bien cela.
Hein. Ils veulent être dans d'excellentes conditions de travail. Et ils veulent rester au village parce qu'il y a de ces jeunes qui ont réussi à rester au village et ils n'ont rien à envier avec des émigrés qui viennent avec des dollars ou euros.
Ouais, et qui sont plus éduqués que leurs parents.
Exactement, et ils vivent en famille, ils sont là devant leurs parents, et ils ont la possibilité de régler tous les problèmes quotidiens au niveau familial.
Aïgou Randrianomen, à Madagascar, toutes les familles sont liées de près ou de loin à la terre, même en ville.
Ben oui, hein, même en ville.
Vous vivez dans la région de Bongalova, c'est ça ? Dans le Moyen-Est de Madagascar.
Oui.
Les jeunes sont-ils motivés pour rester, travailler la terre ?
La région de Bongalova, c'est une zone de migration, c'est-à-dire que la plupart des populations là-bas viennent d'autres régions. Comme moi, je suis du Vagnagaret, et pour devenir professionnel agricole, je devrais trouver des terrains, des grands terrains, des terrains fertiles. Donc, Bongalova est la meilleure solution pour moi et pour les autres jeunes. Pour le moment, dans notre organisation, parce que je suis président d'une fédération régionale dans le Bongalova, une fédération de producteurs agricoles, au sein de notre association, il y a une trentaine de jeunes qui veulent s'installer. Une partie sont déjà installés par leurs propres moyens et une partie par le soutien de leurs parents.
Et qu'est-ce qui les motive quand ils vous disent qu'ils veulent s'installer ?
Leur motivation, c'est surtout de devenir professionnel. Il faut travailler là ou ailleurs. Mais pour eux, ils pensent qu'ils peuvent avoir leur revenu par le biais de leurs exploitations. Mmh. Donc, comme moi, par exemple, j'avais vécu leur situation actuelle il y a 25 ans. Mmh. Donc, je pense qu'il faut vivre avec l'agriculture, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans avenir, mais il n'y a pas aussi d'avenir sans agriculture. Donc, je pense qu'ils ont raison de rester là-bas. Mais c'est à nous, les aînés, de les aider, de leur soutenir par des idées ou par des moyens que l'on peut le faire. Il y a aussi la responsabilité de l'État de sécuriser ces jeunes-là, soit sur leur foncier, soit sur leur sécurité de biens et des personnes aussi.
C'est le foncier, c'est-à-dire l'accès à la terre, hein, parce que par définition, pour travailler dans l'agriculture, il faut avoir de la terre à cultiver.
Et si on veut parler d'accès à la terre...
En pleine propriété ou en location.
Voilà ce que je veux dire, c'est pas seulement l'accès, mais c'est surtout l'utilisation et la sécurisation pour l'exploitation du foncier.
Alors justement, Naoufel Benaha, vous êtes tunisien, vous travaillez au ministère de l'Agriculture, il y a eu depuis la Révolution de nombreux programme hein, pour aider les jeunes à rester dans le domaine agricole, notamment pour avoir accès à de la terre.
Je reviens d'abord à la première question de 19h.
Sur 19h. Ouais, 19h. Parce que tout le monde est couché à 19h en Tunisie dans les campagnes.
Non, en Tunisie, on ne dort pas à 19h, même dans la campagne, parce qu'il y a de l'électricité, il y a la télé, il y a Internet, il y a tout. Donc, reste le problème des loisirs. Il n'y a pas assez de loisirs pour que les gens s'implantent et s'épanouissent dans le territoire là où ils sont.
Parce que les jeunes sont plus exigeants.
Bien sûr, ils sont beaucoup plus exigeants. C'est pourquoi qu'on trouve une part importante des jeunes de la campagne qui travaille dans le secteur du tourisme, parce qu'il y a déjà un défoulement, un changement par rapport à ce qui existe dans leur territoire. Mais malheureusement, avec les problèmes que vit le tourisme tunisien actuellement, espérons que ça va reprendre cette année, c'est positif dans un sens, parce qu'il y a un retour déjà à la campagne de ces jeunes-là qui essaient de créer de l'activité et des richesses au niveau des territoires, avec bien sûr dans le cadre des exploitations familiales. Ça, c'est des mouvements sociaux qui sont en phase transitoire actuellement, parce qu'il y a un changement énorme en Tunisie qui est en train d'être réalisé. Le changement, comme tout changement, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite des moyens aussi qui vont accompagner, ça nécessite aussi une politique bien claire de la part de l'État pour essayer d'intégrer ces jeunes-là dans le contexte économique et social, dans l'environnement économique et social du pays, moyennant des encouragements et des mesures qui permettent à ces jeunes-là
notamment d'accès à la terre.
L'accès à la terre,
il y a des programmes où l'État se porte garant, notamment pour accéder à des crédits.
On a actuellement un nouveau code d'incitation à l'investissement. C'est une loi qui cadre un peu les investissements et qui encourage en quelque sorte les investisseurs à créer leur propre entreprise. Mais c'est une partie du changement. Ça ne peut pas faire l'ensemble du changement. Ça, c'est une part, le code d'incitation à l'investissement. Il y a des jeunes qui vont s'installer sur leur propre compte, qui nécessiteront des moyens, des encouragements. Et l'État, il a mis un certain moyen pour le réaliser, avec bien sûr une partie de subvention donnée aux jeunes pour créer leur propre entreprise, et avec aussi d'autres encouragements dans le cadre de projets de développement, tels que les projets sur lesquels on intervient dans le milieu rural, pour créer une activité, que ce soit agricole ou bien une activité para-agricole, qui va servir comme service pour le secteur agricole.
Encore faut-il être formé, parce qu'être agriculteur, c'est un métier. Alors certes, on a pu apprendre via ses parents, mais enfin, le monde de l'agriculture doit évoluer. L'agriculture sur le continent africain doit se moderniser. Je sais, Anne Panel, dans l'association FERT, que vous accompagnez notamment des collèges agricoles, des lycées agricoles qui sont encore trop peu nombreux sur le continent africain. Nous allons en discuter. Justement, vous restez avec nous, être jeune au village. Quelles opportunités en Afrique? Bien sûr, vous pouvez nous appeler pour réagir aux propos de nos invités, les voisins et les voisines. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous revenons à l'antenne dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Le flash dans quelques secondes sur RFI.
Français.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Vous êtes bien sur RFI, nous posons la question aujourd'hui, quel avenir pour les jeunes dans les campagnes en Afrique avec nos 5 invités autour de la table, dont une bonne partie de passage à Paris. Naoufel Benaha, responsable du développement rural au ministère tunisien de l'agriculture. Babacar Diop, ancien maire de la commune de Rosbétio dans le nord du Sénégal. Aïgou Randrianomen, pisciculteur malgache. Anne Panel de l'association FERT, formation pour l'épanouissement et le renouveau de la terre qui œuvre sur le continent africain, et Jean-Luc François de l'Agence française de développement. Je vous lis quelques messages. Alpha de Conakry, ingénieur agronome, poste le message suivant. En Guinée, plus de 60% de la population vit dans une vie en zone rurale. Son activité principale, l'agriculture. Le problème, c'est que les techniques restent traditionnelles, laissant cette population dans une extrême pauvreté, sans eau courante, électricité, réseau, infrastructure et même politique de développement. Cette population est purement et simplement laissée à son propre compte. Alors justement, on le disait, l'agriculture, c'est un métier. Anne Panel, votre association œuvre notamment pour soutenir l'enseignement technique agricole qui fait globalement plutôt défaut sur le continent africain ou pas ?
Oui, on s'y est très très peu intéressé. Je crois que ça remonte aux années 2000 où on a commencé sur le continent africain à s'intéresser, à se dire que l'agriculture était un métier
et qu'il faut des lycées
agricoles, des formations agricoles spécifiques. Et donc nous, c'est les agriculteurs malgaches qui nous ont interpellés les premiers, les adultes, en disant nous c'est trop tard, c'est nos enfants maintenant. Nos enfants qui veulent bien rester si le boulot sur l'exploitation n'est pas aussi pénible que le boulot de leurs parents. Et donc c'est ce défi-là qu'on a souhaité relever. Et on s'est dit, on fait une formation en 3 ans.
À partir de quel âge ?
À partir de 14 ans, donc ils ont 14 ans en entrant, 18, 20 ans en sortant, en fonction de l'âge d'entrée. Et technique, donc avec 50% de pratique, 50% de théorie, et avec de la gestion. Parce que finalement, l'agriculture, c'est de la technique, mais c'est surtout savoir calculer. Une marge brute, combien je gagne avec mes poulets ? Je peux en avoir moins s'ils sont vaccinés et que je dégage de l'argent, j'ai un revenu. Donc c'est ça qu'on a fait, ça fait depuis 2003 maintenant, à peu près 1500 jeunes sont passés par les collèges et 85% sont installés. Donc ils partent pas.
Installés, ça veut dire avec leur famille.
Alors ça, à peu près la moitié avec leur famille, moitié sur l'exploitation des familles, mais ils ont un atelier à eux, ils ont innové sur l'exploitation de la famille, ils ont leur propre revenu, et à peu près 50% sur leur propre terrain. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on voit, et à l'échelle individuelle, un exemple, un jeune sortant faisait 3 tonnes hectares de riz, ce qui est déjà bien à Madagascar, il fait 4,5 tonnes aujourd'hui, et il fait, parce qu'il a appris ça au collège, la contre-saison. Donc, en plus du riz, en contre-saison, il fait autre chose. Il a doublé son revenu. Il a mis des panneaux solaires sur son toit. Il a une chaîne IFI, parce qu'il a envie aussi d'avoir une chaîne IFI et d'avoir de la musique. Voilà. Et c'est un jeune qui, en plus, aujourd'hui, est président d'une organisation locale de vaccination villageoise pour la volaille, et qui vaccine sur tout le territoire. Donc, il a un rôle de développement sur son territoire. Dans le sud de Madagascar, où pourtant les anciens disaient, c'est d'abord les anciens qui dirigent ces organisations. Non, aujourd'hui, ils font confiance, c'est aussi les jeunes qui prennent la relève. Et ça, je peux vous en donner toute une série d'exemples très concrets, très positifs. Il y a de l'avenir.
Babacar Diop.
Oui, je pense que chez nous aussi, en dehors des écoles professionnelles de formation, moi je suis président de 2 organisations de producteurs. Et dans nos propres organisations, nous avons des collèges de jeunes. Mais nous avons des programmes de formation. Et nos formations tournent autour du suivi et de la transformation des exploitations familiales. Et là, c'est la formation pratique. Nous travaillons dans le cadre de la recherche et développement. Nous convions à des chercheurs et à des conseillers à nous accompagner dans le circuit de production.
Sur quoi vous observez vraiment un impact quand les jeunes sont formés ?
La rentabilité et la productivité de nos filières agricoles.
À quoi vous pensez comme type de culture ?
Le riz, la tomate, l'oignon et l'élevage. Elle a toujours donné l'exemple de l'agriculture. Nous avons même des jeunes vétos, des jeunes techniciens d'élevage qui sont revenus au village et pratiquer des activités d'élevage. Et ça aussi, nous avons un système qui, à la limite, va faire tache d'huile au niveau des départements. C'est un système d'accompagnement, de proximité, de transformation des exploitations familiales. Nous le faisons de concert avec les services déconcentrés de l'État les techniciens et les scientifiques de terrain. Et à partir de ce moment, nous pouvons vivre l'impact sur le terrain.
Mmh, c'est toute
Mais
une
les
chaîne.
Actions de terrain sont fondamentales pour au moins s'approprier d'une formation et booster le système de production.
Naoufel Bena.
Oui, si vous permettez, moi j'aimerais intervenir concernant la formation des jeunes dans le domaine agricole, parce qu'en Tunisie, on a des centres de formation qui relèvent d'une institution rattachée au ministère de l'Agriculture, qui est l'Agence de vulgarisation et de formation agricole, la VFA. Et au niveau de ces centres-là, il y a tous les jeunes qui demandeurs de formation, ils doivent être inscrits, bien sûr, au début de la campagne, au début de la saison scolaire. Et ils ont gratuitement une formation académique, une petite formation très technique sur des aspects pratiques qui touchent à l'agriculture, que ce soit sur l'arboriculture, sur l'élevage, oui, avec toutes les catégories d'élevage, sur la cuniculture qui se développe de plus en plus. Et on a des cas spécifiques où des gens qui se sont installés sur leur propre compte pour développer la cuniculture, qui ont bien réussi. Juste la question de déboucher maintenant de la production qui cause un problème avec le problème du tourisme, parce que c'est lié au secteur touristique qui consomme un peu plus par rapport au reste du pays.
Des produits plus coûteux.
C'est des produits qui ont leur
Jean-Luc débouché. François de l'Agence française de développement.
Oui, sur les trois piliers qui ont été évoqués pour que les jeunes s'installent dans l'agriculture et se développent de manière autonome, que sont l'accès au financement, l'accès au foncier, il y a aussi la formation, mais la formation qui ne doit pas être académique, et comme l'ont très bien dit, qui est quelque chose qui doit permettre aux jeunes de s'insérer dans un réseau social local, territorial. De manière à ce qu'ils préparent son installation, et une installation, c'est technique, c'est technico-économique,
c'est
mais
et
c'est aussi
faut,
très social.
Il faut se faire un carnet d'adresses, quoi,
il faut,
en gros.
Il faut avoir des amis autour, des parents autour, qui vous donnent accès au foncier, qui vous donnent des conseils, et avec lesquels qui vous accompagnent dans votre installation. Et à cet égard, les exemples du Sénégal et de Madagascar peuvent être complétés par l'exemple du Cameroun, où le dispositif public, parce qu'il y a aussi une question de taille, d'échelle, comment faire grand, puisqu'on parle de milliers, de dizaines de milliers de jeunes à accompagner. Et nous considérons que le Cameroun est dans cette bonne démarche d'avoir mis ensemble des centres de formation professionnelle qui accueillent des jeunes ruraux issus de leur terroir, les maires étant au conseil d'administration de chacun des centres de formation, en clair, et qui sont à la fois des centres publics et des centres privés. Et on a défini un référentiel. Et ensuite, les jeunes qui rentrent dans ces centres, et on parle aujourd'hui de 3000 jeunes qui tous les ans sortent des centres et qui s'installent à peu près dans les proportions qu'évoquait Anne Banel, avec ou sans aide du gouvernement d'ailleurs,
oui,
sont ensuite pris dans un réseau local et dans un réseau d'associations, dans un réseau de syndicats.
Et tout ça est tout petit.
Encore...
Tout ça est tout petit, on le disait en première partie d'émission. 200 millions de jeunes, ouais, vont arriver d'ici moins de 10 ans sur le marché du travail en zone rurale.
Oui. Et donc il faut penser très grand.
Ah oui.
Et donc, pour penser très grand, je pense qu'il y a à mettre ensemble, dans un pays donné, tous les acteurs privés, publics, voire même des centres confessionnels dans cette dynamique. Et puis, il faut aussi penser beaucoup plus que nous ne le faisons aux nouvelles technologies de l'information qui séduisent tant les jeunes, mais qui nous offrent vraiment des opportunités de diffuser à très large échelle des messages et à mettre en relation les jeunes entre eux, d'ailleurs.
Oui. Alors justement, Mick pose une question intéressante. Il est à Lomé. Il nous dit le jeune en zone rurale est-il condamné à être un artisan ou un agriculteur? Ne peut-il pas envisager autre chose. Où sont les nouveaux métiers dans ces zones? Il faut développer, selon lui, de nouveaux métiers qui s'adaptent aux campagnes africaines et qui permettent d'enrichir le territoire. Les possibilités sont grandes. C'est vrai que normalement, il y a depuis toujours d'autres métiers. Il y a le vétérinaire, il y a aussi le commerçant qui offre des services pour les gens qui travaillent la terre.
Oui, mais c'est pas une peine.
Oui.
C'est pas une peine d'être agriculteur non plus.
Voilà. Il y a beaucoup de métiers.
Aigo, Andrea Nomen.
Oui, Mika a tout à fait raison. Mais agriculteur, c'est un métier comme les autres. Il faut le choisir si on le veut. Et si on voudrait vivre à la campagne, il faut aussi trouver des métiers. Il faut créer des métiers pour nous, selon notre capacité, selon notre potentialité de le faire. Donc il ne faut pas être agriculteur, mais si on veut être agriculteur, on peut le faire. Donc, si MIC veut revenir dans le milieu rural, qu'il crée son propre entreprise.
Mais vous, par exemple, vous êtes pisciculteur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, sur votre territoire, dans le Moyen-Est de Madagascar, est-ce qu'il y a des techniciens pour entretenir vos infrastructures, votre matériel dans la pisciculture? Vous élevez des carpes, entre autres, et du tilapia, c'est ça?
Généralement, en Afrique, le savoir-faire local ont beaucoup plus de valeur. Parce que nous
qui entretient vos bassins, vous?
Et c'est nous-mêmes.
Donc vous faites tous les métiers.
Enfin, la plupart de nos métiers, mais il y a des conseillers techniques qui viennent avec nous. Nous avons aussi la chance de faire des formations pour être professionnels.
Ce qui est juste, c'est qu'il faut penser l'emploi rural d'une manière globale.
Global.
Mais il faut qu'il y ait des agriculteurs pour que les autres emplois se développent.
Exactement.
Se développent en service aux exploitations agricoles ou après les exploitations agricoles.
C'est ça. Moi, exactement. Je pense quand même que l'agriculture draine beaucoup d'activités connexes. Et il faut peut-être s'adonner aux activités agricoles, mais il y a des activités para-agricoles et non-agricoles. Et chez nous, nous pouvons citer la prestation de services, les activités post-récolte.
Est-ce que vous pouvez parler concrètement ou à cardiaque?
Un transformateur peut rester transformateur, mais il n'est transformateur lorsqu'il a au moins des produits de base qui nous viennent de l'agriculture, de la production. Un commerçant aussi, il commerce le produit local qui nous vient de la production. Alors, toutes ces activités peuvent aller ensemble et tous les acteurs peuvent rester sur le terrain et s'adonner à toutes ces activités.
Je donne un exemple sur les services dont vous parliez. Le conseil agricole, c'est un service en agriculture qui n'est pas un service d'agriculteur. Enfin, c'est un métier de conseiller. Aujourd'hui, FIFATA s'est rendu compte que les jeunes, ce qui sortaient des collèges, s'installaient, mais étaient très jalousés. Leur entourage dit oui, mais celui-là, il a réussi à Madagascar. Mais on a le même cas en Côte d'Ivoire, jalousé, parce que il réussit, et forcément, il donne envie.
Parce qu'il est mieux formé.
Il est mieux formé, voilà. Et donc il donne envie, et au lieu de suivre l'exemple, on peut lui casser son exploitation, parce que c'est pas bien de faire mieux que les autres. Et donc, il a besoin d'être accompagné, solide, pour monter son projet. Et donc, FIFATA, avec notre aide, a développé un réseau de conseillers, une soixantaine de conseillers agricoles. C'est des techniciens qui peuvent venir de la ville ou de la campagne, peu importe, mais ils ont un revenu puisqu'ils sont salariés, du coup, et ils exercent ce métier. Et ce métier, il permet de mettre en relation les agriculteurs entre eux. Il permet aussi avec les smartphones, etc., de prendre des photos à un endroit d'une expérimentation, de l'envoyer au centre qui est à 200 km et de voir le problème et immédiatement d'apporter des solutions. Donc ça fait partie des métiers de l'environnement des agriculteurs qui évitent qu'ils soient isolés.
Vous soulignez tout de même...
Rurales, hein.
Oui, bien sûr. Vous soulignez quelque chose d'intéressant. Un jeune qui réussit dans l'agriculture, il est jalousé. Est-ce que par ailleurs, parallèlement, vous, puisque vous êtes tous vraiment des militants pour faire rester les jeunes en zone rurale et devenir agriculteurs, est-ce que vous faites circuler des modèles? Et si oui, comment vous faites? Des grands frères qui ont réussi, enfin des grands frères, des jeunes grands frères.
Oui, on fait ça pendant des réunions ou des manifestations, c'est-à-dire que les aînés qui ont réussi dans leur exploitation peuvent témoigner et peuvent inciter les jeunes pour devenir et faire mieux. Mais généralement, comme Anne vient de dire tout à l'heure, que si on part tout de suite, c'est-à-dire que si on réussit tout de suite notre exploitation, ça rend les autres un peu jaloux parce que ils étaient là depuis longtemps alors qu'ils n'ont pas réussi à leur exploitation. Donc pour cela, il nous faut des témoignages des aînés et aussi pour leur soutenir dans des structures ou dans des organisations.
Je vous lis le message d'un voisin qui poste de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Brahima. Les campagnes oubliées, pas vraiment. Dans certaines localités, nous dit Brahima, ce sont même les grands bénéficiaires des gadgets pendant les campagnes électorales. Économiquement, ils se frottent les mains puisqu'en général, commerçants, artisans ou éleveurs vendent leurs produits en ville et en tirent un maximum de bénéfices. D'accord ou pas?
Oui, heureusement que les agriculteurs ont des clients
en
ville.
Et tirent un bénéfice de ce qu'ils font, parce que sinon je ne vois pas comment ils pourraient vivre.
Pour revenir sur notre débat sur les différents métiers...
On sent une pointe d'animosité quand même dans ce message.
Oui, j'avoue que je ne comprends pas très bien, parce qu'il y a bien une relation gagnant-gagnant entre des urbains Et des ruraux. On peut même dire que certaines villes sont des villes agricoles.
Non, mais des urbains qui ne vivent que de l'agriculture. Ils nous vendent leurs produits trop chers. C'est ça qu'il faut comprendre ou pas ?
Non, ça, c'est, oui. c'est peut-être le circuit de commercialisation. C'est les intermédiaires qui agissent.
Là aussi, il y a beaucoup d'intermédiaires.
Beaucoup d'intermédiaires.
Si les agriculteurs ne sont pas organisés pour vendre leurs produits, donc ce sont les intermédiaires qui interviennent. Donc ça peut augmenter le prix quand les produits seront
vendus. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes les uns et les autres en mesure de dire dans vos pays respectifs, oui, un jeune peut gagner décemment sa vie avec l'agriculture ?
Ben oui.
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 Au Sénégal, oui. Dans le nord du Sénégal.
Oui, on a des exemples concrets. On le disait tout de suite. Ces exemples font l'objet d'échanges et d'informations pour conscientiser et peut-être informer les autres jeunes qui veulent s'investir.
Non, mais vous ne me répondez pas combien on peut gagner si on est dans l'agriculture, si on fait du poulet dans le nord du Sénégal et qu'on s'est lancé à 25 ans.
Ça dépend des filières. Ça dépend des filières, parce que les filières sont différentes. Mais on peut gagner la vie si on gère bien l'activité. Et gérer bien l'activité, c'est d'avoir au moins une certaine formation de qualité, mais c'est d'être appuyé par un conseil agricole, et elle l'a dit tout de suite. Et à partir du moment, les comptes d'exploitation sont très clairs, on peut gagner notre vie. Et le fait, on peut même peut-être donner un exemple concret. On peut investir au niveau de l'agriculture et avoir à peu près 40% de bénéfices d'une activité. Et ça aussi, je pense qu'il y a des exemples concrets.
Oui, je ne vais pas donner un montant de revenu. Peut-être Aïngou pourra donner un montant. Mais je vais vous dire concrètement, au départ, dans les années 2000, on a démarré, les parents disaient, moi, je préfère que mon fils ou ma fille soit instite.
Oui, il y a même des parents aujourd'hui dont les enfants veulent revenir au village et qui disent, non, on n'a pas investi pour te payer des études pour que tu reviennes au village.
Y en a toujours. Mais ceux qui ont vu les premiers qui venaient, leurs frères et sœurs veulent y aller. Et aujourd'hui, il y a 4 demandes d'emploi, enfin de recrutement dans un collège pour une place. C'est bien qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait gagner mieux que d'être fonctionnaire.
Oui.
Et puis il y a des territoires ruraux, des zones, comme la vallée du fleuve Sénégal ou le delta intérieur du Niger, où on voit un afflux de population. On voit des jeunes qui viennent d'autres régions du pays pour s'installer. Parce que le développement de l'irrigation dans les deux zones que j'ai indiquées offre des vraies opportunités de gagner sa vie. Mais on peut citer des exemples, par exemple sur la côte au Ghana ou en Côte d'Ivoire, où c'est le développement de certaines filières comme l'EVA ou le palmier à huile qui offrent des opportunités à des jeunes et où il y a des retours à la terre. Donc dès lors qu'il y a un certain nombre de conditions, de prix... et qu'on a des jeunes qui sont formés, oui, ils peuvent gagner leur vie.
Et qu'il y a des programmes de l'État, hein, des programmes publics, un minimum, et une volonté politique.
Ça suppose aussi qu'il y a des zones qui sont très vulnérables, là où il y a des gens qui quittent. Exactement. Donc et là, le revenu n'est pas garanti dans le secteur agricole. Peut-être avec ces conseillers, avec cet aspect de coaching, ou bien aussi un nouveau métier qu'on est en train de développer en Tunisie, avec les animateurs de développement qui sont chargé d'appui au développement rural, ça va essayer de contribuer à l'amélioration du revenu, mais ce n'est pas le revenu agricole qui va faire des richesses au niveau de ces zones-là. Donc surtout avec des zones qui sont assoiffées, enfin,
c'est ça qui fait que les jeunes décident de rester ou de partir, hein, tout de même. C'est quand même le nerf de la guerre.
C'est la diversité, c'est la diversité des revenus qui...
On accueille une voisine, vous pouvez nous appeler bien sûr pour participer à la discussion. Être jeune dans les campagnes en Afrique, y a-t-il encore un avenir où aujourd'hui, justement, plus d'avenir qu'autrefois. Nous donnons la parole à Amina qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Amina. Je crois que votre...
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités.
Votre père était agriculteur au Mali.
J'étais agriculteur et je l'enviais.
Oui.
J'ai grandi dans cette agriculture et diversifiée effectivement parce qu'il faisait de l'élevage aussi. Et c'est suite à ça qu'il nous a envoyé faire des études en France et cet amour m'est tellement resté que j'attends ma retraite pour retourner à la terre en Afrique.
Ah.
Et pourquoi attendre la retraite ?
Eh bien voilà.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'ai pas eu la chance. J'ai eu un enfant handicapé, le temps de mettre tout sur place et puis voilà, de repartir.
Mais c'est une très bonne raison en effet.
Oui. Voilà. Donc,
alors qu'est-ce que vous planifiez pour votre retraite agricole au Mali ? Dites-nous, Amina.
De trouver un terrain et de me donner à l'agriculture, de diversifier. Et je crois que c'est le même problème pour les jeunes, d'être autonomes, et surtout le partage du savoir-faire.
Voilà, bah, vous allez devenir une jeune agricultrice finalement.
Exactement, une jeune agricultrice.
Pas du tout.
Je suis en train de faire des contacts au niveau de la France, et pour la transformation, la diversification, allez, notamment le fromage, fumage de poulet, voilà. Donc, et en même temps, j'aimerais bien me déplacer de région en région, de pays en pays, pour partager mon savoir-faire ou apprendre des autres.
Bon, Babacar Diop quand même a souligné qu'il fallait une force de travail, hein, mais vous allez vous faire aider. Hein.
Ah oui, absolument.
Vous n'allez pas pousser la charrue vous-même.
Ah non, 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 il faut la formation. Et puis il faut une adaptation technique quand même, qui est adaptable à l'Afrique.
Ouais.
Parce que ce n'est pas la peine d'amener des grosses machines qu'on ne peut pas manipuler là-bas.
Mm-hmm.
Voilà, il y a tout ça.
Exactement.
Vous soulignez dans votre intervention l'échange, hein, et c'est très important. Donc c'est ce qui, nous, on l'a fait avec l'enseignement agricole privé en France, les lycéens agricoles. Il y a un échange d'expérience et ça marche dans les deux sens. Dans un mois, les Malgaches vont aller au Cameroun, voir aussi ce que font les Camerounais. On peut avancer beaucoup plus vite en apprenant des autres. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voyager. Et de...
Alors, apprendre des autres, vous avez raison. Merci beaucoup, Amina, de nous avoir appelés. Mais moi, quand je vois qu'à Bangui, comme au pied de l'aéroport à Abidjan, on continue d'arroser les jardins avec un arrosoir, certes, l'eau est rare, pas toujours, hein, on se dit quand même, quand est-ce qu'on va progresser sur le plan du matériel? Parce que ça aussi, c'est un frein. C'est ce qui fait que les jeunes n'ont pas envie de se lancer dans l'agriculture. Parce que c'est lourd, parce que c'est dur, parce qu'il fait chaud.
C'est des travaux forcés, l'agriculture.
J'osais pas le dire, mais c'est
oui,
ce qu'ils pensent.
Hein. C'est ça la réflexion. Mais
quand est-ce qu'on va arrêter d'arroser avec un arrosoir? Même si peut-être que ça permet de faire des économies d'eau, mais il y a un moment donné, un petit filet d'eau avec un tuyau et une pompe, c'est pas mal aussi, non?
Vous savez, on est sur des échelles de surface qui n'ont rien à voir, donc il faut relativiser. Hein. Chez nous, un jardin, on l'arrose avec un arrosoir ou un tuyau d'arrosage.
Attendez, quand vous arrosez un hectare à l'arrosoir, ça devient dur quand même.
Oui, mais enfin, en Afrique, on n'arrose pas un hectare à l'arrosoir, on arrose du maraîchage à l'arrosoir. Un hectare de riz, il n'est pas à l'arrosoir, il est irrigué dans le fleuve Sénégal, etc.
Je pense quand même que c'est là où on parle de la transformation des exploitations. Il faut aller vers la mécanisation, c'est vrai, il faut transformer, mais c'est là où on a besoin vraiment de la recherche, des scientifiques qui vont nous proposer des actions qui, à la limite, vont assurer un peu la productivité de ces exploitations. C'est là où on a besoin de la formation, parce qu'être producteur, cela ne veut pas dire que tu viens des grandes écoles, mais si tu es un producteur pratiquant, tu as besoin peut-être des thématiques de formation qui peuvent renforcer ta capacité de production. Et là, tu es déjà en direct avec le terrain.
Oui, peut-être par rapport à ce contexte-là, c'est un peu différent en Tunisie parce qu'on a 92% des terrains qui ne sont pas irrigués, c'est en sec, c'est cultivé en sec, avec 94% de la superficie qui est aride aussi. Donc on ne va pas se permettre à développer des systèmes d'irrigation là où on va. Donc, et on intervient sur des territoires plutôt vulnérables sur le plan environnemental, donc, qui nécessitent une attention particulière. Et c'est là l'apport de la recherche, et c'est là le créneau sur lequel on est en train de travailler pour développer tout ce qui est le créneau de l'agroécologie, qui est très porteur.
Il faut des ingénieurs agronomes.
Voilà, il y a l'ingénierie, il y a la recherche, il y a tout ce qui est service aussi qui doit suivre. Donc c'est là les opportunités.
Non, la pénibilité du travail en agriculture est un vrai sujet pour
sujet
les jeunes.
Sujet central pour les jeunes en Afrique.
Il est difficile d'en parler en des termes extrêmement généraux parce qu'on peut développer des outillages, on peut mécaniser, on peut motoriser selon la spéculation. Et puis on tombe parfois sur des spéculations qui sont impossibles à mécaniser aujourd'hui. Par exemple, récolter des régimes d'huile de palme ou saigner des EVA, ben, ça demande de la main-d'œuvre. Bon, donc il se pose la question de la qualité du travail pour cette main-d'œuvre. Ça peut être un début dans la vie, c'est pas forcément une vie tout entière à être ouvrier agricole.
Sur la culture du riz, par exemple, si on compare avec l'Asie.
Alors, oui. Le riz est un exemple parfait de culture qui peut être mécanisée à des degrés extrêmement variables selon les régions, selon les surfaces dont on dispose. Et Madagascar donne, à mon avis, des exemples formidables d'une mécanisation progressive à base de motoculteurs, alors que dans d'autres zones, on en reste encore très manuel. Ou bien, on peut s'organiser en association qui, ensemble, ou bien on peut avoir des entrepreneurs qui offrent une prestation. Tout est possible.
Voilà. Ngour Andrianomène.
Oui, j'ai eu la chance de d'échanger avec un ami riziculteur de Camargue, là, et il m'a raconté sa façon
de
faire
France,
l'exploitation.
Donc, hein.
Ben oui, alors que quand je lui expliquais mon exploitation en moi, il dit qu'il y a une toute différence, une variété de techniques, mais l'objectif, c'est de produire. Donc, y a cette adaptabilité-là, selon le contexte et la situation où nous y sommes.
Avec l'explosion démographique des villes en Afrique, Jean-Luc François, les villes secondaires vont aussi se développer. Cultiver aux portes des petites villes, est-ce que ça pourrait être un compromis attrayant pour les jeunes ?
C'est une nécessité, c'est une opportunité. Ce n'est pas une question de compromis. Je crois que dans toutes les villes du monde, y a une ceinture maraîchère qui offre vraiment des opportunités. On a aujourd'hui des exemples pratiquement dans toutes les villes africaines. Il se pose une question dans ces zones-là du conseil technique pour avoir des produits qui soient de bonne qualité.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Luc François de l'Agence française de développement et merci à tous nos invités, Mohamed Naoufel Benna du développement rural au ministère tunisien de l'agriculture. Merci à vous Babacar Diop, ancien maire de la commune de Rosbetio. Et merci à vous Engou Randrianomen, pisciculteur malgache, et également à vous Anne Panel de l'association FERT, formation pour l'épanouissement et le renouveau de la terre. C'est trop court, vous reviendrez, c'est promis. Il faudrait plus de sujets sur l'agriculture. Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Pierre Chaffanjon, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins. De la mauvaise blague au blocage de carrière. Comment lutter contre le sexisme au travail. International.